Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique Finance Vérité d'aujourd'hui, numéro 21, a pour titre Thèse, antithèse, synthèse. Dans l'actualité économique générale, j'ai noté que les grèves chez la RATP apparaissent pour ce qu'elles sont. Des sacrifices imposés à la population francilienne dans le cadre du culte voué à l'idéologie de la lutte des classes. Notons que ces sacrifices rituels sont imposés régulièrement, comme autrefois les médecins imposaient à Louis XIV de multiples saignées qu'ils supportaient stoïquement comme des remèdes inéluctables. Cela me rappelle bien des choses. Il y a quand même une probabilité que ladite population cesse un beau matin de cultiver le flegme requis. Pourquoi la RATP ne ferme-t-elle pas les stations au lieu de laisser une quantité d'usagers, pas clients, hein, s'agglutiner sur les quais? La direction serait-elle complice des syndicats et faciliterait-elle sciemment leur action d'emmerdement public au mépris de sa responsabilité civile et pénale grave? Mon grand-père fut administrateur de la RATP. Ce qui m'imposa le devoir dans les années 80, si je me rappelle bien, d'écrire à la direction de la manière la plus ferme pour réclamer la fin d'une stupide campagne de publicité qui incitait les gens à ne pas payer leurs billets. Si tu payes le prix, t'as rien compris. C'était le slogan ahurissant qui s'étalait partout. Il faut dire que sauter les barrières des accès aux quais était devenu un sport olympique après 1981. En 1963, j'empruntais quotidiennement le métropolitain pour me rendre à mon premier travail. Il y avait à chaque station une guérite vitrée, verte et blanche, plus ou moins grande, que chacun des deux quais, suivant l'importance de la station, avec au moins le chef de station d'un côté et son sous-chef de l'autre, qui se parlaient en criant d'un quai à l'autre. Aux deux entrées minimum de la station, il y avait un poinçonneur, souvent fort gai, et très commercial, qui disait un mot à chaque connaissance. Des employés d'entretien attachés à la station faisaient leur travail. Il y avait donc au moins 6 à 8 personnes dans chaque petite station employée par la RATP. Dans chaque rame, un ou deux contrôleurs faisaient leur travail dans le respect général. De nos jours, il n'y a souvent plus personne, ni sur les quais, ni dans les rames. Des barrières, des grilles, des portes, empruntés aux os qui me font repenser aux os humains de Desmond Morris, les caméras aussi qui remplacent malheureusement les personnels. Alors, dans cette situation, où est la justification des grèves de personnel inexistant? Et où est passée la justification collectiviste de la lutte des classes? Bientôt, les métros, à l'instar du Val d'Orly, seront conduits par des robots. Je n'y vois plus que le sacrifice imposé par des syndicats politisés qui veulent garder leur monopole de leur factice représentation et les rentes, bien sûr, afférentes. Ces grèves à répétition dont les canaux télévisés nous rabattent les oreilles jusque dans les Landes, où nous n'en avons rigoureusement rien à faire, au milieu des chevreuils et des sangliers, des ragondins et des hérons, des pigeons, des colombes et autres palombes, répète inlassablement à la fin d'un régime absurde hérité du bolchevisme, lui-même héritier de la Révolution française, comme tous les régimes totalitaires de la planète l'ont avoué. Dans l'actualité économique monétaire, je vois ce matin dans les Échos citer une dépêche de l'AFP, spécialiste très connu de la désinformation, qui titre « L'euro en légère hausse face au dollar, malgré des indices économiques favorables ». Il s'agit de l'éternelle confusion entretenue entre monnaie et économie. Dès que vous entendez des explications économiques à une situation monétaire, n'allez pas plus loin, tournez la page, oubliez. C'est forcément de la désinformation. À l'heure actuelle, comme en 1929, nous sommes dans une crise provoquée par un malthusianisme monétaire raréfiant volontairement les liquidités afin d'en réfugier la création dans le sein bancaire. La monnaie crédit doit dominer et la monnaie gratuite d'État doit disparaître. Tel est le dogme actuel, instrument de l'avènement du gouvernement mondial. Le manque de liquidités en dollars US vrai fonde, au contraire de la désinformation, la certitude de la remontée de son cours, tandis que la BCE émet à tour de bras des quantités superfétatoires de signes monétaires inutiles. Les USA rigolent comme avec Boeing contre Airbus. Toujours dans le domaine monétaire, ils nous damnent les pions avec maestria. Cela continue. Mon conseil patrimonial du jour. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. La Fontaine fut sans doute le meilleur conseiller financier de l'histoire, indirectement certes, mais bien réellement, avec ses morales si parfaitement ajustées et même aiguisées. Il n'y a plus qu'à attendre le résultat pour Pâques de toutes nos dispositions précédentes. Quant à l'euro, la confiance qu'il n'a jamais eue est encore moins justifiée que jamais avec les risques graves de disparition qui pèsent sur cette monnaie de singe du fait des faillites publiques déclarées ou larvées chez les 12 pays de l'Euroland, tels la France, la Grèce, comme avec l'extérieur, la France et son déficit extérieur abyssal par exemple. Je me rappelle cette image de parc d'attraction que j'ai employée au début de la mise en place de l'euro bandit masqué, comme je l'ai qualifié dans un article de presse de 1998. Tout il était beau, radieux, bénéfique. Les promesses à l'encan, prodiguées à l'entrée, bien sûr gratuites, étaient alléchantes. Seuls des rabat-joie comme moi voulaient empêcher les gogos d'entrer dans ce parc d'attractions merveilleux, mais en réalité dangereux, lesquels me maîtrisaient ou m'insultaient. La populace, comme Pinocchio, suivait les escrocs, le sourire aux lèvres, les yeux éblouis de leurs promesses, qui n'engageaient pourtant qu'elles-mêmes, comme on sait. Tout le monde voit maintenant la réalité. Le diable a réussi à faire passer le désert pour une oasis verdoyante et riche, dans un mirage totalitaire gigantesque. La ruine est là, comme prévu, et le travail d'esclave est dur, pour ressortir du parc. Mon histoire de la monnaie, chapitre 21, a pour titre « L'honneur de la France ». 1992. Devant mes étudiants, j'évoque alors, avec sous les yeux l'étude de M. Cornu, inspecteur général honoraire, paru dans le bulletin mensuel de la Banque de France, l'histoire de la restitution, alors d'actualité, de l'or des États battes. 2006. Le secrétariat général de la Banque de France, sous-secrétariat du Conseil général et du Conseil de la politique monétaire, me fait parvenir à ma demande le 27 octobre 2006 de son service des archives, au bon soin de son responsable M. Fabrice Rieuzet, les copies des correspondances et télégrammes échangés de 1940 à 1941 à l'appui de la copie de l'étude citée ci-dessus. Je dispose dès lors de tous les originaux, de même que des copies des instructions données par le gouvernement de Vichy à la Banque de France dans le cadre de l'armistice. Je vais donc ici reproduire, encadré par l'étude de M. Cornu, l'ensemble de ces correspondances. Bon, je vais un petit peu les extraire un peu, mais enfin, toutes du plus haut intérêt historique, comme l'apprécièrent fortement mes étudiants de 92 et, je l'espère, mes auditeurs de 2010 de radiosilence.org sur Internet. La Banque de France a été la seule banque centrale d'Europe à résister, pendant plus de 50 ans, à de nombreuses demandes et pressions tendant à prendre possession de l'or qui lui avait été confié par les États battes. La banque a montré à cette occasion une grande indépendance et une totale loyauté à l'égard de ses déposants. Résume ainsi M. Jacques de la Rosière, gouverneur en 1992. M. Cornu raconte aussi que dès le début des années 30, la Banque de France est en relation fréquente avec les banques centrales de deux États baltes, principalement Lietuvos Bankas à Kaunas, Lituanie, et Latvijas Banka à Riga, Lettonie, auxquelles achète et vend de l'or en lingots et pour le compte desquels elle conserve, quand elle le désire, cet or sous dossier à leur nom. Au moment de la déclaration de guerre, les avoirs des États baltes chez la Banque de France s'élevaient à, pour la Banque de Lettonie, 80 lingots d'un poids total d'une tonne, Banque de Lituanie, 182 lingots, et un paquet de peuilles, c'est des chutes de métal, d'un total de 2246 kilos, c'est-à-dire 2 tonnes 2. Le pacte germano-soviétique, signé le 23 août 1939, attribue l'Estonie et la Lettonie à l'URSS et la Lituanie à l'Allemagne. Le 28 septembre 1939, après la capitulation de la Pologne, l'accord est modifié et la Lituanie est placée dans l'orbite soviétique. Le même jour, un traité d'assistance mutuelle est imposé à l'Estonie. Des conventions de même nature le sont le 5 octobre à la Lettonie et le 11 octobre à la Lituanie. L'occupation militaire suit d'assez près et devient totale en juin 40. L'annexion pure et simple intervient les 3 et 6 août 40. Ces événements n'allaient pas tarder à exercer une action sur les dépôts d'or des banques centrales. Le ministre des Finances, M. Yves Boutillier, via sa direction du Mouvement Général des Fonds, adressait, depuis Vichy, par lettre du 31 août 40, les instructions suivantes à M. le gouverneur de la Banque de France, alors à Châtel-Guyon. Monsieur le gouverneur, par lettre en date du 7 août 40, vous avez bien voulu me consulter sur la suite à réserver à diverses demandes qui vous ont été présentées par des banques d'émission ou organismes étrangers en vue du retrait ou du transfert à d'autres comptes de certaines quantités d'or en dépôt à la BDF, Banque de France. La Banque de Lituanie demande le transfert de son compte à celui de la Banque d'État de l'URSS à Moscou. J'ai consulté sur ce point mon collègue des affaires étrangères et vous serez obligé de sursoir à l'opération jusqu'à nouvel ordre. La Banque nationale du Royaume de Yougoslavie a demandé le transfert vers la Réserve fédérale Bank of New York. Je suis d'accord. La Banque de Pologne, par télégramme de Londres daté du 2 août, vous a demandé de prélever sur son dépôt 200 kilos d'or à mettre à la disposition de la Banque de Bulgarie. Je ne puis que vous confirmer sur ce point les termes de ma lettre du 8 août et vous prier de refuser l'opération. La Banque de Roumanie, en exécution d'une convention passée le 1er novembre 1939 avec la Banque de France et la Banque de Paris et des Pays-Bas, demande la mise sous son dossier de 10 800 000 francs or à prélever sur le fonds de stabilisation, compte T. Je n'estime pas opportun dans les circonstances actuelles de donner suite. Banque des règlements internationaux, la Commission européenne du Danube, la Commission internationale du Danube, à Belgrade, demande le transfert au compte de la BRI de 12 et 64 kilos d'or à prélever respectivement sur leur dépôt à la BDF. Cette opération me paraît devoir être provisoirement réservée. Ce même 31 août 40, la Gosbank, banque d'État de l'URSS, télégraphiait de Moscou. Répétons notre dépêche du 13 juillet. Vous recevrez de Lietuvos Banka, réponse Kona, ordre télégraphique de transférer notre dite position or en barre de 2219 kg. Cet or acheté par nous à la banque Lietuvos Banka. Veuillez placer notre dépôt chez vous. Télégraphiez le même notre 20 juillet, notre dépêche concernant, etc. Étant sans réponse de votre part, prière de télégraphier exécution. Ce fut un télégramme téléphoné à Vichy le 31 août 40 à 10h15. Monsieur Jacques Rueff, alors sous-gouverneur de la BDF, annotait la lettre du 5 septembre 40 dans le sens voulu pour exécution des services. Monsieur Jacques Rueff, devenu quelques jours plus tard le 12 septembre gouverneur de la Banque de France, BDF, à la banque télégraphiait le 12 septembre, donc à la Banque de Lituanie, qu'il sursoyait dans l'attente de la décision du gouvernement. Le 14 septembre 40, la Banque de France recevait à Vichy le télégramme chiffré suivant de Moscou via Radio Suisse, antidaté du 13 juillet 40. Vous télégraphiate comme suit, recevrez de Lietuvos Bankas Konas ordre télégraphique de transférer notre disposition or en barre de 2 tonnes 2. Cet or acheté par nous, veuillez placer notre dépôt, etc. Nous répétons notre dépêche, encore une fois télégraphiquement. Comme votre représentant Bazamikin nous informe que votre secrétaire général lui déclara que ces dépêches étaient non reçues de nous, mais qu'il préparait une réponse à ce sujet, la direction donnera la dite réponse le 14 septembre. Insistons, exécution urgente, placement quantité susmentionnée hors notre dépôt chez vous. Confirmé télégraphiquement exécution, signé Gosbank soviétique URSS. Ce même télégramme fut répété même en anglais ce même jour. Comme on le voit, la Banque d'État de l'URSS a tenté de faire virer cet or lituanien par des ordres qu'elle s'autorisait à donner à la Banque de France en lieu et place du vrai titulaire du compte, mais annonçant pour bientôt que des ordres du titulaire viendraient prochainement sous-entendu sous sa pression, conforter ses télégrammes. Effectivement, le 18 septembre, un télégramme arriva à Vichy. Mettez disposition Banque d'État de l'URSS Moscou, notre dépôt entier d'or, soit 80 lingots d'un poids brut de 1 tonne, poids fin 1 tonne, télégraphié exécution Banque d'État URSS Moscou et nous. Stop, or vendu Banque d'État de l'URSS. Stop, chiffron le poids fin, signé Latvias Banka. Moscou se fendit même d'un autre télégramme direct pour appuyer cet ordre, évidemment dicté par la force. Le 8 novembre 40, la Banque de France recevait à Chamalières un télégramme de Kaunas daté du 6 novembre en anglais. « Fermez notre compte chez vous et transférez le solde au compte de la Banque d'État de l'URSS à Moscou chez la Société Générale à Paris. Stop. Veuillez transférer aussi de la même manière au compte de la Banque d'État de l'URSS à Moscou toutes les sommes venant par la suite à notre compte chez vous. » Etc. etc. Toujours dans le même sens. Avisez-nous par câble de la fermeture du compte et des sommes transférées et informez le bénéficiaire par câble. On voit que Moscou prévoit tout et que la Société Générale est considérée comme plus sûre par Moscou, à ses ordres, que la Banque de France. Le 7 juillet 41, le président de la délégation française pour les affaires économiques, M. Bréard de Boissanger, écrivait la lettre suivante à M. Hemen, ministre plénipotentiaire, président de la délégation allemande d'armistice pour l'économie. Monsieur le ministre, par lettre du 26 juin, vous avez bien voulu me demander de prendre des mesures propres à empêcher l'Union soviétique de disposer de quelque manière que ce soit de l'or des anciennes banques de Lituanie et de Lettonie déposées à la Banque de France. J'ai l'honneur de vous confirmer, ci après, les indications qui ont été déjà fournies verbalement par la délégation française au cours de sa séance du 25 juin. Les négociations commerciales n'ayant pas été conclues ni même engagées avant la rupture des relations diplomatiques entre la France, le gouvernement de Vichy et l'URSS, il n'y a donc actuellement aucun engagement du gouvernement français vis-à-vis du gouvernement soviétique quant à l'or des banques de Lettonie et de Lituanie, dont la situation reste exactement la même qu'auparavant. Le 25 novembre 1941, le secrétaire général de la Banque de France, M. Fèvre Gilly, accusait réception depuis Vichy au directeur Jost du télégramme qu'il transmettait aussitôt au siège social de Chamalières et qui se révélera pour la suite de la plus haute importance historique. Voici. À la Banque de France, Vichy. Annulons toutes instructions données au nom de Latvijas Banka 14 septembre 40 et ultérieurement, après occupation Lettonie par bolcheviste, concernant transfert des pots or au compte Banque d'État à Moscou, lesquelles instructions à considérer annulées dès moment leur intimation parce que signées manière forcée d'ordre Moscou et organe pouvoir bolcheviste. Stop. Prière notée que signature directeur général K. Vanax, directeur E. Ozolins, ainsi que directeur général K. Sandersons, dernier nommé pendant période bolcheviste annulée parce que premier des deux messieurs sont arrêtés par bolchevistes et déportés en Russie, mais que le dernier est lui parti de son propre gré pour la Russie. Stop. Prière confirmée télégraphiquement, réception ces instructions. Stop. Chiffron novembre 17, signé pour la banque Latvijas Banka, J. Stalbovs et K. Wilders. Un extrait du rapport de la BRI, Banque des règlements internationaux, daté du 1er au 30 novembre 1941, fait état de deux télégrammes reçus des deux banques centrales baltes concernées par les ordres de juillet 40 pour les annuler et souligne leur non-exécution de toute façon depuis. Une note récapitulative de la Banque de France datée du 13 décembre 45 rappelle notamment, note de synthèse, le propriétaire légitime de chacun des dépôts restant du fait des circonstances indéterminées, la banque ne pouvait que laisser les choses en l'état, c'est-à-dire une mesure conservatoire logique, les avoirs de toute nature détenus par la Banque de France ou le Fonds de stabilisation d'échange pour le compte des gouvernements de Pologne, de Belgique et plus généralement des banques nationales des pays occupés par l'Allemagne, furent l'objet d'un blocage absolu durant la période. Aucune demande ultérieure à 41, sauf une d'information en 42, ne fut formulée à la banque et l'or matériellement évacué à Kayes, c'est-à-dire au Mali actuel, mais qui était l'ancienne capitale de la haute région du Sénégal, pendant la guerre et maintenant de nouveau revenu à Paris. L'URSS a donc essayé, de facto, de pousser le gouvernement français à la faute, reconnaître son annexion des États baltes rien qu'en obéissant, c'était si facile, à la livraison de ces deux petites quantités d'or. Lors de la visite du général Catroux au début du décembre 1945, il exhiba la nécessité pour la France de parler des avoirs français dans les territoires récemment incorporés à l'URSS, en contrepartie de la demande à nouveau formulée à lui de remettre l'or balte à la Banque d'État. Les Russes oublièrent, entre guillemets, par conséquent, en apparence, mais seulement jusqu'au 12 juin 1948. Un télégramme de la Banque d'État fait à nouveau référence à ce gros mensonge du soi-disant rachat par l'URSS de l'or balte et que les ordres non exécutés causent tant de guerre doivent l'être dorénavant. La Gosbank envoie télégramme sur télégramme les 2 puis 13 juillet, 24 août et 13 septembre 1948, auxquels des réponses d'attente ont à chaque fois été faites. Le 4 novembre, de guerre lasse, la Banque de France télégraphie « Notre gouvernement nous a affirmé que position définie négociation 45 demeurait sans changement. » Une tentative vicieuse eut lieu 21 ans plus tard, en 1969, après une longue période donc de calme, qui essayait de demander à la Banque de France d'utiliser l'or détenu des États baltes pour indemniser les citoyens français spoliés dans ces pays. Cela eût équivalu à reconnaître indirectement l'annexion des États baltes. Nouveau refus du gouvernement et de la Banque de France. Le mérite de la Banque de France s'est appuyé sur celui du gouvernement politique de l'État français de Vichy, qui a imposé la nécessité de voir reconnue par la France la perte de souveraineté des États baltes et des autres comme condition préalable. L'État français a eu là un énorme mérite, car le droit international reconnaissait jusqu'à la guerre 14-18 que la débellatio, ou subjugation par les armes, faisait que l'État vaincu et absorbé cessait d'exister. Les demandes de l'URSS ne faisaient donc que s'appuyer sur ce droit du plus fort qui fut amendé par le pacte de Paris, dit Briand-Kellogg en 1928, puis par la Charte des Nations Unies en 1945 et en dernier lieu par la conférence d'Helsinki en 1975, qui n'a pourtant rien effacé du passé. L'URSS n'a pas cessé de s'appuyer sur le statu quo, refusé par la seule France et sa banque centrale. Certains pays européens ont, eux, reconnu de facto la situation, en vertu de ce faux principe selon lequel le temps efface l'illégalité et valide l'effectivité. Comme la Suède en 64, les Pays-Bas en 67, la Grande-Bretagne en 68, qui ont tous obéi à l'URSS en fin de compte. Ce faux principe continue à donner faussement raison à la République française qui utilise les lois de Napoléon Ier validant les vols de la Révolution pour valider tous les recels, les ventes et les achats de biens volés. Les titres de propriété républicains ne valent donc rien du tout. Ce qui ôte beaucoup de valeur aux relatives bonnes démarches de la République et en rend au contraire immensément à l'État français du maréchal Pétain et à notre Banque de France traditionnelle, malheureusement aujourd'hui quasiment détruite par l'Euroland allemand. Nul doute que Berlin savoure en ce moment sa revanche actuelle. Silence. Les fréquences radio-télévisées ne doivent pas véhiculer en 2009-2010 l'idée que l'honneur de la France doit être défendu et qu'il le fut par le gouvernement du maréchal Pétain. L'aplatissement est devenu la règle, couché en direction de Berlin et Francfort. En 2009, la Banque de France, depuis 30 ans, couvre d'abord, cautionne ensuite, puis avalise, et maintenant, pire, codifie, ce qui est inacceptable, l'escroquerie des banques. Depuis que notre glorieuse Banque Centrale Nationale est devenue la simple succursale de la Banque Centrale Européenne de droit allemand, l'honneur de la France est écrasé sous la botte germano-prussienne. Les chèques de banque viennent, en France, d'être codifiés. Il ressemble maintenant à la monnaie de singe de l'Euroland allemand. Elle est bien la fille de ses parents, née de son père, l'abus de confiance, et de sa mère, l'escroquerie. Quelle honte! Nous verrons dans notre prochaine chronique, dans son chapitre sur l'histoire de la monnaie numéro 22, comment on en est arrivé l'année dernière, fin 2008, à inventer l'anti-monnaie pour alimenter la pyramide de la monnaie crédit.